Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, le tout accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les mythiques coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard, cette semaine, nous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec la préliste du 15 de France. Enfin, nous recevrons Anthony Labattu, dirigeant de futsal au Toulouse Métropole FC, promu en Division 1. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Salut.
Et Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Il manque pas quelqu'un Jean?
Si, il y a un petit oubli là.
Je ne parle pas à Mehdi Guillonneau.
En quel honneur?
Il m'a battu au ping-pong.
Je dis rien.
Très mal.
Je ne dis rien. Oublier, c'est quand même pas joli.
Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Vous allez bien? J'imagine que vous allez très bien. Ouais.
D'ailleurs, la préparation de l'émission a été fantastique.
On a vu, on a assisté à une magnifique guillonnada. Puisqu'il a, il perdait 2-7-0 et il a gagné 4-2. Ouais.
Je sais mettre en confiance mes chroniqueurs. Vous avez vu que j'ai fait exprès sur les derniers 7. Mehdi. Quand même, je suis plus fort que vous.
Sur les trois derniers points, oui, c'est tout. Mais alors après.
Après, il n'y avait plus personne. C'est comme Sochaux, il était bien installé depuis un moment, et puis là, ça coule. Quoi.
Ouais, mais comme j'ai dit tout à l'heure, contrairement au vrai FC Sochaux, là, j'aurais bien amené un Chinois pour jouer.
Parce que là, ça n'aurait pas été pareil. Ouais.
Non, mais il avait bien annoncé à 2-0, un 4-0, mais c'est lui qui a pris le 4-0. Ouais.
Le trash talk, des fois, ça.
Pour une fois, il ne s'est pas trompé en pronostic.
Bravo, Jean.
Ok, vous n'allez pas avoir beaucoup la parole Mehdi Guillonneau ce soir, tant pis pour vous. Je me tourne vers notre invité qui est déjà là. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Alors je vous laisse vous rapprocher voilà, du micro, pas de soucis. Vous êtes donc au Toulouse Métropole FC, promu en Division 1, retour depuis un an, c'est ça?
C'est ça, donc on a toujours fait partie de la première division de futsal, qui est donc le plus haut niveau français, depuis sa création en 2009. Alors il faut savoir qu'à la base en 2009, il n'y avait qu'une seule poule. Deux poules, pardon, une dans le sud, une dans le nord.
Et c'est venu à...
Voilà, et depuis 2013, ça s'est...
C'est professionnalisé.
Devenu, voilà, ouais. On va dire ça. Ça s'est structuré, c'est devenu une seule poule nationale de 12 équipes. Et donc, nous, on a toujours fait partie de la première division depuis 2009. Et,
sauf l'année dernière, c'était une rétrogradation administrative.
Voilà, on est descendu sur tapis vert une saison, et puis on a réussi à...
À remonter,
voilà, ouais. À faire preuve de... on n'a pas lâché pour pouvoir remonter. Exactement. Ça nous a pas handicapé, voilà.
On en reparlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Bon, je vois que tout le monde va bien, à part Mehdi Guillonneau, tant pis pour lui. Tout le monde est en place, on peut démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Comme chaque lundi, vous nous parlez d'un événement sportif qui vous a marqué, un exploit, une déception. On va commencer par Mehdi Guillonneau, comme ça.
Quand même.
Comme ça c'est fait, je vous entends plus pendant les 40.
Font la paix.
Celui qui va le mieux démarre, c'est ça?
Exactement. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique. On va partir pour du basket et on va faire un coup de cœur sur la NBA.
Et ouais, ça fait un petit moment que j'en avais parlé et on a vécu des moments extraordinaires chez nous en Europe avec la Ligue des Champions de foot. Mais il y en a eu aussi en NBA cette semaine et ce sport-là aussi peut provoquer des émotions folles. Et hier soir, on a eu le droit à une nuit historique parce qu'il y avait des matchs 7 en demi-finale de conférence, des matchs 7, c'est-à-dire que c'est des séries qui se jouent au meilleur des 7 matchs, donc il faut en gagner 4. Et sur deux séries, il y avait 3-3. Et la plus folle, c'était Philadelphie contre Toronto. Ça a été un match de fou, tout le match. Il n'y a jamais eu plus de 4 points d'écart. Ça se répondait entre les deux stars, entre Embiid, Kawhi Leonard.
Bah nous aussi, il n'y avait pas 4 points d'écart maximum. C'était la même chose.
Ça l'a marqué. Hein.
Je suis vexé.
Allez-y. Il y avait 4 points d'écart tout le match. Jimmy Butler égalise à 4 secondes 2 de la fin. Il y a une remise en jeu, donc il y a un temps mort. Remise en jeu pour Toronto. Et là, moment d'histoire, Kawhi Leonard qui prend le ballon, qui dégaine un shoot... un peu Ave Maria, complètement arrondi, ce qu'il a absolument pas l'habitude de faire.
En parabole, ouais.
Il y a 4 rebonds sur le cercle, et là ça rentre. Et c'est le premier buzzer beater de toute l'histoire des matchs 7 en playoff. Donc c'est un grand moment d'histoire, et Toronto rejoint les finales. Juste sur l'autre match, c'était aussi un match 7, Portland-Denver, ça a été serré tout le match, ça finit avec 4 points d'écart aussi. Il n'y a pas eu de buzzer beater là, mais ça a été une série hyper serrée. On a eu aussi un des plus grands matchs de l'histoire, puisque il y a eu le premier match de playoff avec 4 prolongations. Ah, ça a fini 140-137. Il y a eu 4 prolongations et voilà, on a eu le droit à des playoffs magnifiques. Et du coup, les demi, ça sera Golden State Portland à l'ouest et à l'est, ça sera Milwaukee contre Toronto.
Timothée Rouvière, grosse année.
C'est vrai qu'on a pas mal de spectacles en NBA et moi j'ai notamment relevé quelque chose, c'est que pour les demi-finales Golden State contre Portland, les deux frères Curry vont jouer l'un contre l'autre. Ouais. Et il y avait une interview des deux parents qui disaient bon, c'est pas trop qui supportait, donc voilà, c'est un bon petit clin d'œil. Et c'est vrai que ça change un petit peu les playoffs de la NBA. On a l'habitude de voir Golden State qui domine depuis plusieurs années. Il y avait les Spurs aussi qui étaient là, qui sont pas là cette année, donc ça change. Il y a de nouvelles équipes et de nouveaux joueurs qui s'affirment, donc ça promet.
Et surtout pas LeBron James.
Voilà, surtout pas LeBron.
À l'est, c'est ça qui a changé beaucoup la donne et
c'est en tête au compo, la star maintenant.
Comment vous pouvez le redire si vous voulez,
Maxime? En tête au compo.
En tête à compo plutôt.
C'était pas mal.
Le Greek Freak à peut-être.
Ouais, voilà. Giannis.
Maxime Brossard.
Ouais, non, en plus, c'est bien pour Toronto parce que c'était un gros pari. Ils ont tradé cet été DeRozan, qui était leur meilleur joueur et qui l'ont balancé aux Spurs. Et ils ont récupéré Kawhi Leonard et on se rend compte que c'est un mec qui est vraiment bon dans le money time. Et du coup, là, je crois qu'il a qu'un an de contrat. On sait pas s'il renouvelle.
Ils l'ont récupéré. Le risque, c'est qu'en fait, Kawhi Leonard était peut-être un meilleur joueur que DeRozan, sauf que DeRozan était encore sous contrat.
Ouais, voilà.
Alors que Kawhi Leonard, à la fin de l'année, il peut très bien partir.
Ils vont le renouveler, normalement.
Et ben, ça se fait, c'est lui qui choisira.
Parce que j'avais vu que il est de Los Angeles, en fait, et je crois qu'il y avait notamment les Clippers qui étaient très intéressés par lui. Bon, j'espère qu'il restera parce que c'est bien pour Toronto.
Avec tout l'amour qu'il a reçu, je pense qu'au départ, il n'était pas forcément parti là-dessus, mais avec ce qui est en train de se passer, la balance tourne en faveur.
D'ailleurs, il faudrait regarder parce que je me demande est-ce qu'une équipe canadienne a déjà gagné l'NBA?
Et
je crois pas. Parce qu'il y a eu Vancouver à une époque, les Vancouver Grizzlies, ils ont jamais gagné, et Toronto n'a jamais gagné.
Donc ça pourrait rentrer dans
l'histoire.
Ça pourrait être une première. La date pour les demi-finales?
Premier match mardi soir pour Portland Golden State et mercredi soir pour Milwaukee Toronto.
Comme ça, on est complet. On suivra bien évidemment l'actualité. On comptera sur vous pour vous faire un débrief, lundi prochain. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard. Oui. C'est le seul coup de gueule de la soirée. Vous n'êtes pas content. Vous en avez parlé la semaine dernière du début de la Coupe du Monde de hockey sur glace.
Ouais.
Ça se passe pas très bien pour l'équipe de France.
Premier match perdu contre le Danemark au tir au but. En plus, c'est un match qu'il valait mieux pas perdre, en fait, puisque c'est une équipe qui est à peu près de notre niveau. Donc, on a perdu après avoir mené 4-2, on a été rejoint, puis ensuite les prolongations et tir au but avec, on va dire, un peu le capitaine, pas vraiment le capitaine, mais une des stars de cette équipe qui est Damien Fleury, qui a eu du mal dans sa tentative. Il a fait un peu n'importe quoi. Bon, et puis le lendemain, on affrontait les États-Unis et puis là, on a pris 7-1. Bon, là, c'était, on va dire, le tarif normal, le tarif habituel. On a payé l'addition puisqu'il y avait les joueurs de NHL. Ça chauffait un peu sur la glace d'ailleurs. Texier qui joue en NHL, qui est un peu la nouvelle star du hockey français et qui il s'est fait un peu brancher par ses nouveaux adversaires. Et voilà. Et donc prochain match contre l'Allemagne. Il va falloir gagner. Ce sera demain à 20h45 sur la chaîne L'Équipe. On est avant-dernier du groupe.
Il faut gagner parce qu'on
est devant la Grande-Bretagne. Ouais, c'est ça. Il y a des descentes. On est dans la poule élite, donc il faudrait finir en T-pénultième, c'est-à-dire avant éviter les deux dernières places. Donc, sachant qu'il y a eu beaucoup de surprises dans cette poule, le Canada a perdu contre la Finlande, les États-Unis ont perdu contre la Slovaquie qui a perdu ensuite. Enfin bon, l'Allemagne qui est plutôt bien placée, elle est deuxième puisque en fait ils ont un calendrier assez facile. Ils ont joué la Grande-Bretagne et le Danemark, donc ça va être un match décisif demain. Faut être devant la télé.
Timothée Rouvière.
Oui, début de championnat du monde compliqué pour les Français, et surtout il y a pas mal d'absents. Je crois que Alexandre Roussel n'est pas là, Pierre Belmar non plus.
Ils sont retenus par leur club,
aux États-Unis. Donc c'est vrai, quel crédit mettre à cette équipe de France qui enchaîne les défaites mais qui peut pas compter sur ses meilleurs éléments. Voilà, c'est un petit peu le NBA aussi, ce problème. Mehdi me le confirmera, où certaines franchises n'acceptent pas de lâcher leurs joueurs pour les championnats du monde.
C'est la même chose, ouais. C'est parce qu'il y a des championnats en cours, donc forcément, ils lâchent pas les joueurs.
Mais c'est quand même pas normal, messieurs, que le club soit privilégié par rapport à la sélection.
Pour un Européen, oui, mais pour un Américain, c'est la franchise qui pense autrement, en fait. C'est la franchise qui prime sur. C'est votre entreprise qui prime sur votre pays, parce que j'ai envie de dire. Donc, voilà, quoi. Là, on peut pas faire autrement. Après, on a une équipe qui est assez correcte. Je pense qu'on peut on peut accrocher l'Allemagne. Quand le Danemark, il nous a juste manqué un peu d'assises défensives dans les dernières minutes, un peu de solidité, et pas hésiter à leur rentrer dedans, un peu à mettre des mises en échec pour conserver le score et garder le palais. Et puis, voilà. faut y croire contre l'Allemagne, donc demain à 20h15 sur la chaîne L'Équipe. Voilà, je le répète.
Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière, pour votre coup de cœur. On va parler d'athlétisme.
On part du côté de Yokohama au Japon pour les mondiaux de relais. Alors, ça a été très très compliqué pour l'équipe de France. Hein. Pas mal de... alors, le 4x100 hommes a fini 5e. Le 4x400 hommes et femmes a perdu. Donc, s'est qualifié pour les championnats du monde de Doha qui auront lieu en août, mais a perdu. Ils ont terminé... alors, les hommes ont terminé 10e, donc 2e de la finale B, et les femmes 8e. Le relais est mixte avec le champion d'Europe, Pascal Martin-Lagarde, qui a été éliminé au temps. Donc, très très compliqué. Et là, victoire du 4x2 féminin, un petit peu inattendu. Carole Zahi, Estelle Raffaï, Maroussa Paré et Cynthia Leduc qui s'imposent devant la Chine et surtout la Jamaïque qui comptait Hélène Thompson, double championne du monde, et surtout Shelly-Ann Fraser-Pryce, septuple championne du monde.
Bah, de la Jamaïque, c'est un exploit. Hein,
c'est un exploit quand même, surtout que c'était inattendu. Avec des... alors, y a, dans le relais 4x2, il n'y a que Carole Zahi qui a quelques références européennes, bah, même pas mondiales. Mais sinon, c'est des petites jeunes qui poussent et c'est mondiaux de relais. Voilà, c'est la 4e édition. C'est tout jeune et c'est plutôt sympa. Moi, j'ai pris du plaisir à le regarder. Voilà, il y a certaines épreuves qui pourront être inscrites aux Jeux Olympiques en 2020 et 2024, et ça permet de moderniser un petit peu l'athlétisme. Donc, ouais, beaucoup de projecteurs sur ces épreuves un petit peu inconnues.
Maxime Brossard.
Ouais, j'ai vu qu'en plus ils avaient introduit le relais mixte. Mmh. Du coup, au nom de la parité, qui est un peu on va dire pour les prochains Jeux, c'est un peu le but des prochains Jeux, mettre de la mixité dans les épreuves. Et puis, je crois le 4x100, on a été pas mal, je crois, avec Vico, on est arrivé en finale.
Arrivé cinquième, donc ouais, c'est vrai que ouais, c'est une petite déception parce qu'il y avait possibilité de faire mieux, mais
Jimmy, il y avait les moyens de faire un podium, quoi.
Il y avait les moyens de faire un podium, ouais, mais victoire surprise du Brésil devant les USA qui aligne Gatlin et la nouvelle pépite du sprint américain avec Noah Lyles. Ah oui, la Grande-Bretagne 3e, championne du monde en titre. Ouais. La France avait juste Zico qui avait des bonnes références. Christophe Lemaître a dû déclarer forfait, ouais, pour cette épreuve. Mais ça permet de se préparer. L'équipe de France a eu 3 semaines de stage donc à Yokohama avant ces mondiaux de relais. Ça permet de se préparer. La plupart des relais sont quasiment qualifiés pour Doha.
Pour
les championnats du monde qui auront lieu fin août. Donc c'est sympa.
Il y a les championnats du monde et en ligne de mire, pardon, il y a surtout les Jeux Olympiques hein, de Tokyo 2020. Ça va arriver très vite. Là, c'est plus, on est vraiment dans la préparation hein, des
Oui, voilà, c'est la préparation. Là, l'idée, voilà, c'est vraiment de réaliser les minima pour les championnats du monde à Doha et ensuite d'accrocher des belles places et de bien figurer au niveau des bilans mondiaux pour enchaîner.
Ok,
bon, parfait. Tout va bien. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes, messieurs, avec l'agenda de la semaine par Maxime Brossard. A tout de suite. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, stand up on my shoulders, tell me what you see. I am.
shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt.
C'était Giant sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'agenda sportif.
Genre, vous n'êtes pas un Giant en anglais, par contre. C'est sûr que...
Comment on dit ?
Rag and Bone Man.
Rag and Bone Man.
Ouais, ouais.
Fantastique. C'est bon, j'ai réussi à le dire.
Ouais. Bon, on fera un doublage.
On peut passer à l'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard, oui. Et comme d'habitude, une actu bien chargée.
Ah oui, là aujourd'hui, c'est pas un agenda, c'est une anthologie. 3 tomes de 96 pages, tenez-vous bien. On va commencer par le rugby, donc. Donc c'est parti, la Pro D2, samedi 18 mai, je vais aller un peu vite, hein, donc 18h30, la première demi-finale de Pro D2 entre Oyonnax et l'Aviron Bayonnais. Le lendemain, donc le dimanche 19 mai à 14h15, la deuxième demi-finale entre Brive et la surprenante équipe de Vannes qui a battu Mont-de-Marsan 50-10.
Ça, c'était une
barrage.
Surprise. Hein.
Ouais, c'est incroyable. On espère d'ailleurs qu'ils vont faire un beau parcours, les Bretons. C'est beau pour la région, quoi. Première fois qu'une équipe de l'Ouest qui arrive aussi loin.
C'est vrai que c'est rare. Hein.
Ouais. Ensuite, une finale de l'Elite 1, donc la plus haute division du rugby féminin. Ce sera à Tarbes à 21h. Ce sera la finale entre Toulouse, donc les Toulousaines qui ont battu le Blagnac Rugby.
Blagnac, les voisines.
Voilà, en demi-finale, ouais. Et c'était à Auch, ce week-end, donc. Et elles vont faire un remake de la finale de l'an passé, en fait, puisqu'elles vont affronter Montpellier et les Montpellierennes qui ont battu Bayonne. Voilà.
Donc, et c'est le Stade Toulousain qui est champion de France.
C'est Montpellier. Fait plusieurs années, ça doit faire 5 fois d'affilée, je crois, que Montpellier archi-domine le championnat de France féminin. Voilà, on espère que les Toulousaines vont réussir à faire
l'exploit.
Ensuite, on passe à la Fédérale 1, donc le samedi 18 mai, toujours à 19h30. Donc, il y aura la demi-finale du trophée Jean Prat avec la réception de Valence Roman par les Blagnacais. Ce sera donc au stade Ernest Argelès à 19h30, je le répète. Ils ont battu Bourgoin en quart de finale, donc là, c'est la demi-finale. Voilà, on espère que les Blagnacais vont s'imposer. Et le lendemain à 15h, le dimanche à 15h, donc Albi qui reçoit Rouen pour la première demi-finale de ce trophée Jean Prat. Il y aura une demi-finale retour, on en parlera lundi prochain.
On le rappelle, il n'y a pas de montée malheureusement pour Blagnac. Hein.
Non, Blagnac ne peut pas monter. Blagnac peut soulever le bouclier, mais ne peut pas monter en Pro D2. Ouais.
Bon, c'est toujours ça.
Et c'est la magie du rugby. ensuite, on fait top 14. Donc samedi à 15h, il y aura un beau Agen Castres. Et il y aura aussi le match de la peur pour Pau. Eh oui.
En parlant de Pau. Oui.
Le match de la peur avec
Bonsoir Coraline.
Un Pau Grenoble.
Bonsoir. Je me fais toute petite ici maintenant.
Comment on se remet on s'est bien remis d'une défaite face
Alors,
au stade.
On s'est bien remis. Disons que la semaine dernière, du coup, j'étais à Pau. On a passé la semaine main dans la main avec les Palois face aux Pyrénées. Oui.
Est-ce que vous êtes allé voir le basket pour vous remettre? Parce qu'au basket, ça gagne.
C'est bien.
Au basket, ça gagne. Effectivement, non, j'ai pas pu aller le voir, mais effectivement, c'était un beau match apparemment. Ouais.
Ouais, il vaut mieux aller voir du basket.
Un classico.
Et comme vient de nous dire Maxime Brossard, c'est le match de la peur là ce week-end. Hein.
Bon, c'est le match, ouais, faut pas le louper quand même celui-là. Enfin, Grenoble, c'est.
Ouais, Grenoble.
Il manque un point, une victoire.
Grenoble à la maison, ouais.
Grenoble à la maison, là, quand même.
Ouais.
On pouvait gagner en jouant en marche arrière, là, c'est pas possible.
En moonwalk.
En moonwalk, ouais.
En moonwalk.
On continue donc le lendemain avec le dimanche à 12h30 Montpellier Stade Français et il y aura du coup après à 16h50 du coup UBB Stade Toulousain. Voilà un match qui compte pour rien donc vous pouvez le regarder quand même. Hein.
Oui. Ouais. Un entraînement pour les demi-finales. Hein,
Entraînement. On aurait préféré peut-être une équipe qui a quelque chose à jouer. Ça aurait peut-être mis un peu plus d'intensité sur le terrain. On va voir si ça va pas desservir les Toulousains. J'espère pas parce qu'en plus après ils jouent contre Perpignan il me semble. Ouais. Donc bon. Voilà. Et un dernier mot de rugby avec le 13. Donc,
le 13.
J'annonce juste un match qui aura lieu dans deux semaines. Ce sera le choc. Donc, il vaut mieux se préparer avant quand même, puisqu'il aura lieu au Canada. Ce sera donc le Théo 13, deuxième de la poule, qui va affronter Toronto, le premier. Et ce sera le 18 mai au Canada. Alors, j'espère qu'il y aura peut-être un moyen de le voir à la télévision. Ou bon.
Vous y allez?
Voilà. J'aimerais bien y aller. Malheureusement, j'y suis déjà là. Toronto, c'est une belle ville, mais bon. Pour voir du rugby, ça aurait été encore plus beau, oui.
Ça aurait été beau. On change de sport, on se met au football.
Oui.
Et un pauvre match nul hein, du TFC ce
ouais.
week-end. Hein.
Ouais, ouais, on va demander à Mehdi qui a dû regarder ce match. Il a dû se régaler. Un 0-0 des familles, comme on dit.
Je ne cache pas que j'ai gagné des sous grâce à ça.
Non, mais juste pour résumer, 3 tirs du TFC dans le match.
Ah, ben on est dans la moyenne.
avec aucun tir de Sanogo, Gradel, Dosevi, les trois attaquants.
Oui, c'est vrai que les trois attaquants voilà. n'ont pas tiré. Ça montre bien, comme vient de nous le dire notre invité Anthony, ça montre bien un petit peu le match qu'on a eu hein, entre Amiens et Toulouse, 0-0, hein, bien évidemment.
Ouais, il faut du courage. Bientôt, il faudra être payé pour avoir la Ligue 1, c'est pas l'inverse. En fait. Et du coup, le TFC qui est pas encore sauvé, on va dire mathématiquement, il suffira d'un point samedi face à l'OM à 21h
au stadium.
Voilà.
Dernier match de la saison à domicile.
À domicile, ouais. Donc, faudra y être, il faudra soutenir les Toulousains. On continue le foot avec vendredi à National 1, le champion Rodez qui reçoit Lyon-la-Duchère à 17h. Et juste en dessous, en National 2, on aura un match crucial pour les hommes de Patrice Morel avec Colomiers. Ils vont aller à Bordeaux. Ce sera donc samedi à 18h. C'est l'avant-dernière journée. Ils sont à portée de fusil de Nîmes, qui est le premier relégable de leur poule en fait. Ils sont 14e, ils sont à 5 points, donc il faut absolument gagner parce que sinon ça va être compliqué pour Colomiers.
Et je sais que c'est pas régional, mais tous au Stade Bonal hein, vendredi, match du maintien contre Grenoble hein, Sochaux oui. Sochaux Grenoble, on parlait de Grenoble tout à l'heure avec
derby de l'Est, allez, on fait
région, enfin un très très gros derby gros derby de l'Est. On change de sport, on se met au basket. Très belle performance du TMB.
Ouais, les filles qui se sont imposées 68 à 71 en demi retour des playoffs contre Angers. Mmh. Elles accèdent donc à la finale qui est prévue le 18 mai. Je rencontre les Bourguignonnes de Charny.
Et un mot de handball également.
Ouais, la saison est terminée avec le PSG qui est sacré. Pour le Phoenix, il y aura la réception de Istres mercredi.
Ce sera mercredi.
À 20h30. Toulouse est 8e du classement. Pour le volet rapidement, on dit aussi que la saison est finie puisque Tours a été champion et les Spacers ont fini 11e.
Bon, merci Maxime Brossard pour l'agenda. Nous, on se retrouve là tout de suite avec le débat de la soirée.
Allez,
sportez-vous bien. Le débat.
On va parler rugby. Le 20 septembre prochain débutera la Coupe du Monde de rugby au Japon. Les premières pré-listes commencent à être annoncées, comme celle de Jacques Brunel, sélectionneur du 15 de France selon Midi Olympique. Une liste de 65 joueurs avant celle définitive de 31 joueurs plus 7 réservistes. Ce sera le 18 juin prochain. Un débat plus général, messieurs, sur les choix du sélectionneur. Messieurs, déjà, est-ce que la liste vous plaît, Mehdi Guillonneau?
Oui.
Maxime Brossard?
On est obligé de dire oui, il y a tellement de joueurs que c'est compliqué.
Et Timothée Rouvière?
Oui et non.
Oui et non. On regarde quoi en premier dans une liste aussi large que ça? On le rappelle, 65 joueurs. Il va en falloir 31 plus 7 réservistes, 38. On réduit quasiment à moitié. Mmh. On regarde quoi en premier là sur une liste comme ça?
Alors déjà, on regarde les nouvelles têtes. Il y a pas mal de joueurs. Alors déjà, il y a des revenants. Je pense à Virimi Vakatawa. Je pense à Sofiane Guitoun qui fait une super saison avec le Stade Toulousain. Je pense à des petits jeunes qui arrivent et des joueurs un peu plus confirmés du top 14 comme Mikael Ivaldi ou encore François Cross, même s'il est jeune, voilà, qui sont présents dans cette liste. Pourquoi elle me plaît? Parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont nouveaux, qui montrent de belles choses en top 14, et ça permet de rajeunir cette équipe de France. Ouais. Pourquoi elle me plaît moins? Parce qu'on connaît Jacques Brunel, on sait que c'est un sélectionneur qui garde quand même une grosse ossature, et sur les 65 joueurs sélectionnés, il y aura peut-être un ou deux petits nouveaux, mais il va garder son ossature, et je ne suis pas sûr que les joueurs qui sont actuellement présents vont permettre à l'équipe de France de très très bien figurer à la Coupe du Monde au Japon.
Pareil, on regarde les nouveaux, on regarde...
Moi j'avais surtout envie de faire une blague, en fait, c'est la liste de Brunel plus la liste de Galtier qui a été faite, donc ça fait 65 joueurs en tout.
Mais c'est Galtier, c'est le prochain sélectionneur du
qui sera adjoint pendant la Coupe du Monde aussi.
C'est incroyable.
C'est juste incroyable.
Oui, mais c'est je sais pas, c'est un peu étrange.
Pour revenir sur la liste,
oui.
Elle vous plaît, vous, la liste
bah, oui,
très élargie, il y a du choix. Quoi,
là. Mais là, en fait, il a pris tous les meilleurs Français de top 14. Même, pour refaire une blague, il a pris tous les Français du top 14. Donc, en fait, le truc, c'est que, bon, après, mettre des noms, coucher les noms sur la liste, on va dire, faire cette présélection, c'est bien aussi, je pense, pour les joueurs, puisque ça va les encourager à se dépasser pour les dernières échéances, à essayer d'aller chercher un peu plus loin pour prouver qu'ils auront leur place dans le squad final pour la Coupe du Monde de rugby. Après, on sait que voilà, l'ossature normalement devrait pas trop bouger. Je pense qu'il y aura pas trop de surprises, à part si c'est Galtier qui a les rênes en sous-main. Il est possible que oui, là par contre, ce soit autre chose. Mais normalement, Brunel va pas trahir les joueurs qu'il a déjà sélectionnés. Je pense pas.
Mehdi Guillonneau.
Moi, il y a une chose qui me plaît, c'est ce que je disais déjà avant, c'est que les deux équipes les plus représentées, c'est Toulouse et Clermont, et c'est
ça
petit
montre
peu,
le top ouais, 14 quoi.
C'est les deux leaders et c'est les deux équipes aussi qui propose le jeu le plus agréable. Donc, en espérant que ça se retranspose en équipe de France, même si j'y crois très moyennement. Mais bon, il y a un côté positif à ça, c'est que les deux meilleures équipes, les deux équipes qui jouent le plus, ont le plus de joueurs dans ces listes-là.
Timothée Rouillard, plutôt d'accord.
Je suis d'accord avec Mehdi. Moi, je pense qu'on peut être optimiste parce que l'arrivée de Fabien Galtier, même s'il y a eu un imbroglio sur quand est-ce qu'il arrive, avec qui, etc., personne n'a compris, je crois. Fabien Galtier était un joueur, est un entraîneur qui, à Montpellier, à Toulon, a montré qu'il voulait du jeu de mouvement. Et l'arrivée de Fabien Galtier et la sélection de joueurs comme, je pense à Romain Tamak, Sofiane Guitoun, à Raka, Tono, Fofana,
toi qui joue voilà, cette saison, hein,
qui prône un jeu de vitesse et de mouvement. Je pense qu'on peut être positif, mais après, ça c'est sûr que même si l'équipe de France propose un jeu de vitesse et de mouvement, ça va être compliqué de rivaliser avec d'autres nations, je pense aux All Blacks, à l'Afrique du Sud, qui ont l'habitude de jouer tout le temps comme ça et qui ont un temps d'avance sur l'équipe de France. Et comme le disait Maxime il y a quelques émissions, le nouveau rugby, ça va être un rugby de déplacement et un rugby avec du jeu au pied. Et là, je ne vois pas des joueurs capables d'utiliser le pied à bon escient, en tout cas dans la liste proposée.
Ça manque de footballeurs, Maxime, non ?
Ouais. Peut-être, ouais, c'est vrai, hein, c'est fort possible. Là, il faudrait peut-être plus de jeunes qui sont passés par le football et qui basculent au rugby. Ça se faisait beaucoup avant, d'ailleurs. C'est vrai que après la constante du jeu au pied, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le niveau international, parce que les défenses sont un peu plus,
les Irlandais, voilà, les Anglais,
ils l'utilisent énormément.
Parce qu'en fait, on en a fait les frais durant.
Mais c'est le problème de notre championnat, c'est-à-dire qu'il est pas forcément calqué sur les standards internationaux. Donc en fait, quand on arrive au plus haut niveau, même si on a des bons joueurs, on n'arrive pas à s'adapter assez vite. Après, je pense que là, au niveau des noms couchés sur la liste, je pense pas qu'on peut mieux faire. Enfin, si, pour moi, il manque quand même Sekou Makalou au Stade Français, qui est un flanqueur, qui est justement, vu si on est dans l'optique de prôner du jeu de vitesse, c'est pour moi l'archétype du joueur moderne. C'est dommage qu'il y soit pas. J'espère que c'est peut-être une erreur du sélectionneur, peut-être qu'il va faire marche arrière. J'aimerais bien le voir. J'aimerais bien qu'on lui donne sa chance. Voilà, plutôt que je vois là, bon, il y a Loré, bon, il est plutôt sur la fin que sur le début. Voilà,
justement, on parle de jeunesse, c'est ce que vous avez dit, Timothée Rouvière. Est-ce que clairement l'objectif, et même si c'est une Coupe du Monde, ça reste énorme, est-ce qu'on sacrifie pas un peu la Coupe du Monde en anglais? Je vous crois un peu parler durant l'année. Et l'objectif, c'est quand même de faire venir les jeunes pour 2023, on le rappelle, hein, 2023, c'est la prochaine Coupe du Monde, et elle est chez nous, elle est en France.
Oui, moi je pense que Jacques Brunel est.
C'est dans les têtes déjà ou c'est beaucoup trop loin?
Moi, je pense que c'est dans la tête des jeunes joueurs qui se préparent. Moi, je pense vraiment que cette Coupe du Monde 2019, bon, on va pas se leurrer, ça va être un test, on va essayer de bien figurer. Je pense que c'est la fin pour pas mal de joueurs. Je pense à Guillaume Guirado, à Johan Maestri,
même Ugé, je pense.
Voilà, Johan Ugé, plein de joueurs Picamol qui arrivent un petit peu sur leurs 32, 33 ans, qui arrivent à la fin. C'est une nouvelle génération qui s'installe et c'est aussi la possibilité de donner à des joueurs d'engranger un petit peu d'expérience au niveau international pour ensuite essayer de faire quelque chose au plus haut niveau en 2023.
C'est ça, il y a deux écoles. Soit en fait on propose un baroud d'honneur, on va dire, aux anciens, on leur dit bon, mais voilà, vous avez les clés du camion, vous essayez de finir en beauté, un peu comme ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2011, où c'était une génération qui était sur la fin, on va dire, de joueurs qui allaient partir, même s'il y avait quand même quelques joueurs confirmés et des nouveaux qui arrivaient, il y avait quand même une majorité de joueurs qui n'allaient plus aller en équipe de France ensuite. Soit sinon on fait le choix, mais voilà, on met que des jeunes, on les envoie, on va dire, au casse-pipe, et puis eux, ils prendront l'expérience, ils auront découvert l'ambiance d'une Coupe du Monde, en sachant qu'ils vont quand même affronter l'Argentine et l'Angleterre qui sont dans notre poule. Et avec le résultat qu'il y aura, on peut faire. Enfin, après, je trouve ça quand même dommage de squeezer une Coupe du Monde. C'est un événement tellement rare que
La solution qui a été choisie, c'est un peu une solution hybride. C'est qu'il y a certains jeunes qui sont intégrés, mais pas tous. Il en manque beaucoup. Les U20 qui ont été champions du monde il y a deux ans, c'est ça?
L'année dernière.
C'était l'année dernière. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Il en manque quelques-uns. Donc c'est un peu hybride. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment tranché, par contre, là-dessus. Et j'ai un doute sur ces choix-là.
Justement, sur cette liste où, on le répète, c'est 65 joueurs, on va passer à 31 plus 7 le 18 juin prochain. Quelles sont les forces en présence là, de cette liste, même si c'est compliqué d'avoir un avis précis, tant la liste est large?
Alors, je vais répondre à votre première, à la deuxième question. Déjà, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, c'est une première. Il n'y a aucun sélectionneur d'équipe de France qui a fait ça. Non. 65 joueurs, énormément de. Voilà, il y a des jeunes, des plus expérimentés, donc on ne sait pas trop. Je pense qu'on sera plus à même de débattre quand on aura vraiment la liste des 38 joueurs, donc 31 joueurs et 7 réservistes. On a des valeurs sûres, je pense à Guillaume Guirado, je pense à Cyril Bail, Kamicha, c'est des joueurs qu'on voit depuis 3, 4, 5 saisons. Après, je trouve que cette liste, elle pose quand même pas mal de questions. Je pense notamment à Peato Movaca, qui est talonneur au Stade Toulousain, qui est très jeune, qui a été lancé très rapidement dans le bain avec les blessures de Leonardo Ghiraldini et Julien Marchand, mais voilà, qui a à peine une vingtaine de matchs. C'est un petit peu tôt, moi, je pense, pour le lancer. Ça met aussi une certaine pression pour ces jeunes. Je pense aussi que des joueurs comme Geoffrey Doumerou qui ont eu leur chance en équipe de France qui n'ont jamais confirmé, qui n'ont jamais réussi à apporter ce qu'ils apportent en club. Ça pose des questions, cette liste.
C'est plus pour donner un petit coup de boost à ces joueurs, pour dire on va peut-être pas vous prendre pour la Coupe du Monde, par contre on pense à vous, donc continuez les performances. On est dans cette idée-là.
On vous surveille, c'est ça, je pense, qui est le message. Mais là, du coup, le fait qu'il y ait Doumerou, on peut dire c'est peut-être Brunel finalement qui l'a fait, parce que on sait que Galtier et Doumerou sont en froid. Ils étaient même disputés à une époque, ils se parlent pas du tout.
C'est fait exprès,
je sais pas, mais c'est vrai, vous pouvez même le trouver, c'était passé sur YouTube et tout, il y avait des vidéos qui tournaient parce que Doumerou avait critiqué Galtier et ensuite il s'était attrapé, c'était assez rigolo. Et du coup,
ça peut être volontaire de la part de
volontaire de la part de Brunel ou est-ce que vraiment finalement les deux se sont réconciliés et puis ils avancent pour le rugby français.
Timothée revient.
Et on peut notamment souligner la présence d'Ale Veretiraka, donc l'ailier fidjien de Clermont, qui a été naturalisé français au mois de mars. Il n'avait pas pu jouer les tests de les Six Nations parce qu'il était blessé. C'est un joueur, on connaît la qualité de ce joueur, mais ça montre qu'il n'y a pas énormément de monde aux ailes en équipe de France. Et à voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'avoir Raka à l'aile, c'est plutôt pas mal pour les Bleus.
Quel est le point fort, Maxime Brossard, de cette liste? On se penche vers quel style de jeu? C'est trop compliqué encore.
Là, style de jeu, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, le problème de l'équipe de France, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'identité de jeu, quoi. Et là, on voit des noms qu'on a vu circuler quand même plusieurs fois, des joueurs qui sont venus en équipe de France et qui sont repartis avec le succès qu'on connaît. Donc, je pense que là, on a vraiment les 65 meilleurs joueurs français du championnat, mais. Voilà, le championnat, notre championnat est tellement en retard par rapport, on va dire, aux exigences du niveau international que je pense que, après peut-être qu'il y aura un exploit, peut-être que ça fera comme en 2011. C'est ça le problème des Français, ou en 99, on n'est jamais trop sûr de rien.
On est bon quand on n'est pas attendu, quoi.
Mais après, devant, je trouve qu'on est pas mal. Il y a du costaud devant. Mmh. On est devant, si on prend quand même les noms qui ont été mis là, on aura un pack quand même assez massif.
Quoi. Assez important. Il vient de parler du top 14. On vendait le top 14 il y a quelques années comme le meilleur championnat du monde. Là, c'est totalement différent. Comme on le dit, on est en retard. C'est ce qui va pêcher, c'est ce qui va faire défaut là durant cette Coupe du Monde. La qualité de notre championnat, entre guillemets.
Plus que la qualité du championnat, qui pour moi reste encore assez correct. C'est peut-être pas c'est plus le meilleur championnat du monde largement comme ça l'était. Mais c'est le rythme qui est donné dans ce championnat-là. C'est-à-dire que dans le championnat de France, quand il y a ce qu'on appelle des rucks, les joueurs restent beaucoup plus longtemps au sol. Ça va beaucoup moins vite que dans les autres championnats. Il y a moins de temps de jeu effectif. C'est beaucoup plus lent et c'est peut-être ce manque de rythme qui pourrait nous faire des fois la Coupe du Monde quand on sait que maintenant il faut courir partout, plaquer partout, et c'est ce qui pourra manquer aux Français dans cette Coupe du Monde.
Timothée Rouvière.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Maxime et Mehdi. C'est vrai que là, quand on regarde cette liste, on a l'impression que c'est les 65 meilleurs joueurs du championnat français, tout simplement. Je pense que le travail de Fabien Galtier.
C'est ça qui montre, pardon, c'est ça qui montre qu'on est en retard par rapport, bon, à la Nouvelle-Zélande, on est d'accord, mais
oui,
aux Anglais, aux Irlandais.
C'est ça qui montre qu'on est en retard, et surtout le travail de Fabien Galthié et Jacques Brunel, ça va être pendant les un mois et demi de préparation à la Coupe du Monde, ça va être réussir à créer une identité de jeu, à créer des automatismes entre les joueurs, et surtout voilà, à travailler ce qui nous sépare des très grandes nations. Mais après, c'est vrai que le retard est assez grand à combler.
Maxime Brossard.
Après aussi, ça montre un autre point faible du rugby français, qui est, on va dire, le fait qu'il n'y a pas de continuité, et qu'il y a énormément de joueurs, et comme on l'avait dit après les Six Nations, vous me donnez par exemple l'équipe du Pays de Galles, l'équipe d'Irlande, ou l'équipe d'Angleterre ou de Nouvelle-Zélande, je vous fais la composition les yeux fermés, quoi. Je vous trouve les joueurs exactement. Là, c'est un peu à l'image du rugby français, beaucoup de changements, beaucoup de turnover, on a du mal à se mettre en place. Et après, oui aussi, pour revenir sur l'argument de la préparation physique, on espère que ça va marcher. Ils ont pris un excellent préparateur physique, l'équipe de France, vraiment, qui devrait arriver avec Fabien Galthié, qui est, alors j'ai oublié son prénom, il s'appelle Giroud, qui était le préparateur physique de Toulon, qui est très très réputé, qui a notamment travaillé avec des équipes de football américain, donc il est très très en avance dans son domaine. J'espère que ça va nous aider à franchir le gap, parce qu'on a énormément de retard par rapport aux autres pays.
Mehdi Guillaumeau, pour conclure.
Une bonne nouvelle quand même, moi en tant que chercheur, je suis obligé, il y a trois Gersois dans la liste. Ça peut être,
il faut en parler.
Bourgarit, Aldrit et Jelonche.
Ça c'est beau, ouais. Aldrit, ça, c'est il est ça. À moitié écossais en plus.
Merci messieurs, on reparlera bien évidemment de la liste du 15 de France le 18 juin prochain. On se retrouve dans moins de 4 minutes, nous serons avec notre invité Anthony Labattu, à tout de suite. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. For the first time in your life, you saw her, you could fly. For the first time in your life, you loved her, she loved you back. For the first time in your life, you felt alive. C'était Jane sur Radio Présence.
Portez-vous bien. L'invité.
Voilà, je l'ai bien dit là.
Félicitations. Ouais, vous deviez être au Zénith ce week-end, je crois qu'il y avait Jane. C'est
exactement.
Pour ça que vous êtes entraîné tout le week-end.
Vous avez vu que j'ai quand même progressé en un quart d'heure en anglais quand même.
Ça va vite.
Ça va très vite. Bon, messieurs, notre invité est membre du Toulouse Métropole Football Club, un club de futsal. Anthony l'a battu et promu au même titre que les joueurs en Division 1. Anthony, rebonsoir.
Bonsoir, rebonsoir et merci à vous de m'accueillir pour représenter le club.
Merci, merci à vous d'être en direct dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Bon, déjà pour commencer, avant de parler un peu plus du club, on va présenter le sport. Qu'est-ce que le futsal ? Bon, comme son nom l'indique, c'est du foot en salle, voilà, on va rien inventer. Mais ça se joue comment ? À combien ? Voilà.
Alors c'est un sport, disons, assez récent. C'est né dans les années 1930 en Uruguay, il me semble, en Amérique du Sud. Et donc, ça se joue à 5 joueurs par équipe. Et,
en comptant le gardien.
En comptant le gardien, voilà. 4 joueurs de champ et le gardien, avec remplacement illimité. Il y a pas mal de règles qui changent par rapport au foot, même si, bien sûr, la base de la discipline, ça reste proche du foot.
Voilà, ça se rapproche un peu du hand, peut-être, aussi.
Aussi du hand, oui. Du hand, c'est même, il y en a certains, je connais certaines personnes qui disent que ça se rapproche plus du hand que du foot. Bon, voilà, on peut dire c'est du handball avec les pieds, quoi.
C'est 2 fois 20 minutes, c'est ça.
Mais 2 fois 20 minutes,
on se dit c'est très court, mais par contre le temps est arrêté. Dès que le ballon sort, c'est arrêté. Hein.
Exactement, dès que le ballon sort, ça s'arrête pour.
Donc c'est 40 minutes pures,
voilà.
Vraiment.
Voilà, c'est vraiment le rythme peut paraître haché, mais ça va très vite, voilà. Parce que par exemple pour faire une remise en touche, on a les joueurs en 4 secondes pour mettre le ballon en touche.
Pareil pour le gardien, s'il a le ballon à la main, il a 4 secondes.
Voilà, exactement, voilà, pour le 6 mètres. Toutes les remises en jeu se font en 4 secondes.
Donc les Italiens ne peuvent pas gagner du temps hein,
sur
le futsal.
Le gardien ne peut pas rester à les cages à boire, etc.
c'est compliqué. Vous en pratiquez, vous, du futsal ?
Alors moi, personnellement, non. J'ai pas accroché pour jouer, mais par contre, pour aider le club et sa discipline, j'ai totalement mis les deux pieds dedans.
Justement, vous qui voyez les matchs de très haut niveau, hein, faut le rappeler, c'est l'équivalent pour du foot de la Ligue 2 et vous venez de monter en Ligue 1, donc c'est le plus haut niveau qu'il y a en France. Vous qui le voyez tous les week-ends, le rythme, on l'imagine, on parlait un petit peu du handball tout à l'heure avec Mehdi Guillonneau, c'est extrêmement intense, ça va très très vite.
Le rythme est élevé, oui, c'est très élevé, donc les joueurs ont une préparation physique, une condition physique impeccable, quoi, c'est ce qui est requis. Après, bien sûr, les joueurs, ils tournent souvent parce que bon, rester sur un terrain à faire que des allers-retours, c'est que de l'attaque-défense, disons, c'est un des charmes, cardio, des atouts de ce sport, quoi. On s'ennuie pas, comme on disait en début d'émission, avec Amiens-Toulouse 0-0.
Les
0-0,
pas,
hein. J'en ai jamais vu, voilà. J'en ai jamais vu, à part en équipe 3, un match amical, mais voilà.
Il y a beaucoup de fractionnés, hein. C'est ça, la préparation, elle peut se faire avec des professionnels. Enfin, on imagine que la préparation est digne de footballeurs professionnels. Vous avez un lien avec le TFC, justement, ou Rodez, des clubs qui touchent le monde pro ?
On n'a aucun lien avec des clubs de foot. Juste depuis cette année, avec le TMFC, le club de foot du Toulouse Métropole, qui depuis 2 ans est la fusion entre le club de Toulouse Fontaine, il me semble, et Toulouse Saint-Jean. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semble. Et du coup, nous, on a fait un transfert de droits sportifs depuis l'été dernier pour se mettre avec cette fusion de l'époque. Voilà.
Donc le Toulouse Métropole va jouer en Ligue 1, en Division 1.
Voilà. Et pour répondre à votre question, on n'a pas de lien avec le TFC, ni Rodez, ni aucun club de
pro. Hein.
De club pro, voilà.
Question de Maxime Brossard.
Moi, je voulais savoir, bon, je compare par rapport au rugby, nous on a les Fidjiens et les Georgiens, et vous, est-ce que il y a de nationalité qu'on voit présente dans le championnat de France, ou est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui jouent finalement?
Des Français, il y en a beaucoup parce que bon, on est limité en termes de bon. Déjà, c'est pas professionnel, donc bon, les revenus sont moindres pour tous les clubs de première division. On a beaucoup de joueurs français du coin, voilà. C'est souvent des joueurs qui habitent sur Toulouse, qui travaillent à Toulouse, etc. Après, on a beaucoup de Brésiliens ou de comme on n'a pas le droit d'avoir beaucoup de mutés qui viennent hors de l'Europe, on a beaucoup de Portugais et d'Espagnols sur le championnat français, surtout.
Justement, pour parler de ces pays, qui domine le futsal mondial, on le rappelle, c'est une surface réduite, bien évidemment, mais le futsal, il se répand de plus en plus. Il y a une Coupe du Monde de la FIFA, au même titre que les garçons remportés par l'équipe de France l'année dernière, ou que les filles qui vont la jouer cet été, on le rappelle, c'est en France. Qui domine ? C'est le Brésil, le Portugal. Le Portugal est costaud. Hein.
Alors, le Brésil est le club le plus titré, mais il me semble que le tenant du titre, c'est l'Argentine.
L'Argentine.
Lors de la dernière Coupe du Monde en 2016.
Et pareil, c'est tous les 4 ans ?
Voilà, c'est tous les 4 ans, comme au foot, comme il se fait dans tous les autres sports général. Voilà, donc c'est l'Argentine qui domine le futsal mondial avec le Brésil. Au niveau européen, c'est plutôt l'Espagne et le Portugal également. Voilà, c'est pour être allé voir un match en Espagne, dès le plus jeune âge, les petits, comme nous, les plus petits en général font du foot la plupart. Le sport dominant, entre guillemets, c'est le futsal, ou du moins les petits qui font du foot font aussi du futsal. Voilà, donc c'est une autre culture, voilà.
Mais ils sont dedans tout petits, quoi.
Voilà, depuis tout petit, ouais. C'est la différence qui nous lie avec le futsal français.
Et nous, justement, on commence plus au foot à 11, et quand on voit que le foot à 11, on n'aime pas ou on n'y arrive pas, en général, on part sur le futsal ou c'est plus l'inverse ?
C'est plutôt le cas que vous avez dit en premier.
C'est le foot à 11 et qui part au futsal.
Au futsal, voilà, ouais. C'est souvent une reconversion football-futsal qui se fait. On a plusieurs cas comme ça de les joueurs, forcément, comme il n'y a pas encore beaucoup d'écoles de futsal qui sont développées en France, on commence souvent par le foot parce que bon, les clubs de futsal, malheureusement, on n'en voit pas encore beaucoup.
Surtout à Toulouse, il fait beau, on reste dehors. Alors.
Voilà, c'est ça, surtout. C'est compliqué de faire son trou à Toulouse.
Mehdi Guillonneau.
Justement, vous avez récupéré, enfin, il y a eu une fusion avec le Toulouse Métropole qui est aussi un club de foot à 11, qui est le deuxième plus gros sur la ville de Toulouse. Est-ce qu'il y a des liens avec le foot à 11? Est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent jouer en futsal et vice-versa?
Alors déjà, mettre les choses claires, c'est pas vraiment une fusion qu'on a fait, c'est plutôt un transfert de droits sportifs. Okay. Voilà, c'est juste on a transféré notre
ça, c'est sur le terrain, ça.
Voilà, c'est ça. notre structure de futsal qu'on avait à Bruguière auparavant, on l'a transféré du côté de Toulouse Métropole. Ouais. Alors après, maintenant avec le Toulouse Métropole FC, du coup le club auquel on s'est affilié depuis l'été dernier, on a souvent des échanges des échanges. On fait plutôt venir des petits joueurs pour des jeunes membres de 11 ans. Par exemple, c'est quand il y a des joueurs de 11 ans, etc., pour les petits d'école de futsal qui viennent s'entraîner au futsal de temps en temps. On leur fait des initiations pour qu'ils commencent à, si ça leur plaît, à apprendre à jouer à cette discipline. Et donc, après, au niveau pour les grands, bien sûr, la direction du Toulouse Métropole FC, qui est très compétente, d'ailleurs, je tiens à le souligner, vient régulièrement voir tous les matchs de notre équipe une, et ils ont tout le temps assisté à nos matchs cette saison, voilà, donc vraiment ça se passe très bien.
Il y a un lien, par contre.
Voilà, il y a un lien pour ça, il y a un lien très important, et on a très bien été accueillis dans ce club, et c'était, pour l'instant, on n'a pas de mauvaise surprise.
Pas de problème.
Voilà, pas de soucis.
Tout
se passe à merveille.
C'est amené à se développer, j'espère, parce qu'il y a de plus en plus de liens qui sont faits, notamment en Espagne, je sais pas, j'espère que ça sera le cas dans des clubs comme ça, où en fait on se rend compte que les enfants, il faut qu'ils touchent le ballon souvent.
Ouais, c'est ce que j'allais
demander. Et au futsal, ils touchent le ballon souvent.
C'est ça, ouais.
Et c'est une super formation pour les enfants plus tard, quoi. Pour les enfants.
C'est complémentaire, disons, les deux pratiques sont complémentaires. Voilà, le foot en herbe, c'est plutôt physique, on va dire, même si le futsal, voilà, mais c'est surtout de longues lignes droites sur le terrain.
Le foot en salle, c'est beaucoup plus technique, on l'imagine, vu que le terrain est beaucoup plus petit.
Oui, ça demande plus de technique, forcément, que le foot en herbe traditionnel. Voilà, comme on touche beaucoup le ballon dans des petits espaces, les joueurs ont besoin d'avoir une technique pas irréprochable, mais très développée.
Ça laisse la place à des joueurs physiques. Quand je dis physique, bien évidemment, il faut avoir un physique pour tenir aussi longtemps, mais physique des joueurs d'un mètre 90, de 80 kilos, ou c'est vraiment petit et très fin le futsal.
La plupart des joueurs, ils sont quand même petits, qu'on se le dise, qui sont petits techniques. Il y a des joueurs athlétiques costauds qui sont très appréciés, par contre. Voilà. Dans chaque club, on va dire qu'il y a souvent un ou deux joueurs costauds.
Sorte de pivot.
Voilà, une sorte de pivot. Ouais. Ils jouent souvent en attaque pour une sorte de pivot pour servir ou pour, voilà. C'est vraiment des joueurs qui sont appréciés et pas indispensables, mais voilà, qui sont importants dans un effectif.
Et dans le football à 11, il y a beaucoup de tactiques, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-4-5-1, etc. C'est pareil dans le foot en salle, alors bien évidemment à moindre mesure, mais pareil, on peut jouer sur le placement, ou c'est trop petit pour pouvoir jouer là-dessus?
C'est le point le plus important.
C'est le point le plus important.
C'est pas ce qui paraît, mais c'est le point le plus important et sûrement le plus travaillé aux entraînements. Voilà, il y a plein de combinaisons à avoir, de systèmes de jeu en fonction de comment l'équipe adverse attaque, où se placer sur le terrain, est-ce qu'on met, comme il y a quatre joueurs de champ, 2 et 2, ou 1, 2, 1.
Losange. En général, on joue plus en losange. Hein.
C'est ça. Quand l'équipe adverse a la balle, oui, voilà, ça dépend.
Le losange au futsal, c'est un peu le 4-4-2 au football.
C'est ça.
C'est le classique, quoi.
Voilà, c'est ça. Classique. C'est la plupart du schéma le plus
répandu.
Voilà, le plus répandu.
Maxime Brossard.
Moi, je voulais revenir justement sur le jeu physique. Il n'y a pas de tacle, du coup, au futsal.
C'est interdit.
Pas de contact, même.
Interdit. Voilà. Les contacts, il y en a.
Ça joue à l'épaule.
Avec l'épaule, voilà, comme au foot. Mais par contre, les tacles glissés sont interdits.
Ah oui, d'accord. Donc voilà. c'est vraiment la priorité.
Ça, à part bien sûr si c'est pour prendre la balle, un tacle pour
sauver un ballon.
Voilà, bien sûr. Ça c'est autorisé, mais tacler un joueur, si on le touche, en général, ça se passe mal après.
on revient sur les équipes nationales. On a parlé du Brésil, de l'Argentine qui est championne du monde en titre, du Portugal. Justement, le niveau de l'équipe de France, on en est où? C'est vrai qu'on a pas l'habitude d'entendre d'énormes performances du côté de l'équipe de France. On en est où?
Alors, l'équipe de France, l'année dernière, elle s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à l'Euro. C'était l'an dernier, il me semble, en février dernier.
Et elle a joué l'Espagne. Elle a mis 4 buts, je crois, à l'Espagne.
Il y a eu 4-4, il me semble. Ouais. Il me semble que c'était un match nul. Elle avait fait un beau parcours.
Ce qui était un exploit de mettre 4 buts aux Espagnols.
Exactement.
Comme vous avez dit,
bien sûr, voilà, l'Espagne était ultra favorite, donc. Bien, ça a été un exploit, bien sûr. Après, l'équipe de France, ça se développe. C'est une équipe jeune, donc voilà, c'est une équipe pour l'avenir et avec des joueurs de grande qualité quand même, qui jouent dans les plus grands clubs français. Ça reste à se développer, mais elle est sur la bonne voie parce que, par exemple, il y a aussi des pôles France qui se créent. Et
ça va, on a le temps encore.
D'accord.
Et un mot sur le championnat. On l'a dit, on le répète parce que c'est quand même une énorme performance. Vous venez de remonter en division 1. Le niveau du championnat m'a l'air correct. Il y a l'Access, il y a le Sporting. C'est des mastodontes du football, du futsal en France.
Hein. C'est ça, c'est les deux clubs.
C'est le PSG et Lyon, quoi.
Voilà, il y a aussi Kremlin-Bicêtre, entre autres, qui sont de très gros clubs, de très gros clubs du championnat, des clubs historiques et des références du championnat. Et le niveau du championnat est de plus en plus élevé chaque année. On voit de plus en plus de clubs éclore et faire de belles choses. Là, cette année, par exemple, on a eu le club de Nantes qui a fini quatrième de la saison régulière, alors que c'était un club qui jouait
pas,
c'est un club avec un très beau public qui fait du très bon travail. Et voilà, donc il y a plein de clubs comme ça qui réussissent à faire leur trou et qui progressent petit à petit, et tant mieux pour la discipline.
Timothée Rouvière,
vous disiez que voilà, il y avait les championnats du monde tous les 4 ans. Est-ce que par exemple le futsal pourrait être inscrit au programme des Jeux Olympiques? On sait qu'il y a pas mal de nouveaux sports qui arrivent. Est-ce que c'est un objectif ou...
C'est un objectif annoncé par beaucoup d'acteurs du futsal.
L'idéal 2024 2020 c'est trop tard.
Voilà, c'est ça. 2024 ce serait l'idéal. Après, bon, ça reste compliqué parce que bon, il y a aussi d'autres disciplines qui mériteraient leur place.
Mais est-ce que ça remplacerait pas justement le foot qui, en tant que discipline olympique, n'en est pas
vraiment qui va, quoi.
Est-ce que si on met pas du futsal,
ça serait une bonne alternative.
On rappelle que pour les Jeux Olympiques, pour le football, c'est le foot à 11 comme d'habitude, mais c'est seulement les moins de 21 ans, à l'exception de 3 joueurs. L'équipe de France a moins de 21 ans, ça, sur le papier ça va, mais voilà, c'est les moins de 21 ans plus 3 joueurs. Et il faut, là par exemple, on parlait tout à l'heure du hockey sur glace, ouais. Là il faut l'accord des clubs pour être libéré. Neymar avait dû demander par exemple pour les Jeux Olympiques de Rio de se faire libérer par le FC Barcelone.
Alors ici c'est pareil, mais ici on a des sélections, il me semble que ça va jusqu'à U17 pour l'équipe de France de futsal.
D'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais il n'y a pas un jeune qui a été sélectionné à l'équipe de France de jeunes du club là?
On a un joueur depuis cette année, on a recruté un joueur, Rami Barra, qui est en équipe U21 chez les Espoirs. On a aussi Mathieu Faupin qui est en U19 et un joueur qui vient de rentrer en seconde, il me semble, qui est en seconde et il est au Pôle Espoir de Lyon, le premier pôle espoir de France à Lyon.
Quand on est à Toulouse et quand on parle de futsal, on est obligé de vous parler de quelqu'un, bien évidemment, c'est Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, c'est une grande figure du Toulouse Football Club. Il est aujourd'hui en Espagne où il fait les belles heures du FC Séville. Il toque très régulièrement aux portes de l'équipe de France de football. Il est passé par le futsal. C'est un exemple pour les joueurs. C'est rare, ça arrive souvent. Qu'est-ce qu'il en est ?
Ben Yedder, bon, je pense que c'est l'exemple à suivre pour tout le futsal français. Voilà, il est passé, il a fait sa formation à Garges, il me semble, avant de passer dans le monde sans CFA, il me semble, dans la région parisienne, avant d'être transféré au TFC. Alors, il faut savoir que quand il était au TFC, bon, il venait faire quelques entraînements. Bon, pas beaucoup, bien sûr, parce qu'il était occupé, mais à Bruguière, voilà, parce qu'il a, comme il disait lui, il aimait toujours cette pratique, comme il disait, complémentaire du football, voilà. Donc, c'est bien sûr l'exemple à suivre pour tous les jeunes et tous les joueurs en général du championnat.
Et à l'inverse, il y a beaucoup d'anciens joueurs professionnels qui, après leur retraite, quoique, hein, il faut quand même tenir physiquement sur le futsal. Ça arrive le chemin inverse? Ou ça, ça doit être rare, ça?
Alors, c'est rare. Les deux seuls exemples que j'ai, c'est une fois où il y avait le joueur de, c'était une équipe, il me semble que c'était le Kosovo, qui avait aligné plein de joueurs de futsal sur le terrain par manque de joueurs. Bon.
Ça arrive.
Voilà, c'est ça. Il y a Hubert Fournier aussi, qui est le directeur technique national de foot en salle.
C'est en lien également avec la Fédération française de football. Il y a un énorme lien avec les deux.
C'est la FFF qui gère le championnat de France.
Anthony Labattu, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous pour parler du Toulouse Métropole Football Club, qui est promu en division 1, qui retrouve la division 1 un an après l'avoir quitté.
C'est ça.
Donc on suivra bien évidemment les performances du TMFC prochaine. Merci à vous, merci messieurs,
merci à
Coraline et Grégoire à la réalisation. Retrouvez demain dès 7h Rémi Soulomiac, Isabelle Oneil et Corinne Saint-Félix. Bonne semaine avec Radio Présence.